Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant le salut. Le titre pour aujourd'hui sera « Le jour du jugement de Dieu n'est pas loin ». Je répète, « Le jour du jugement de Dieu n'est pas loin ». En effet, le grand trône blanc est là. Le juge, nous le voyons assis, et il y a des anges et des archanges qui assistent. Et tout le ciel se rassemble. Il y a des millions incalculables retenant leur souffle dans l'émerveillement, surveillant la scène qui tout de même est redoutable. Et quand j'ai dit des millions, ce sont, comme vous l'avez compris, les anges, les archanges, les séraphins, etc. Donc, ils attendent là, et la crainte, elle se trouve, on peut la lire, sur chaque visage. On peut dire que le drame final du temps va être joué maintenant. Rien d'autre n'importe vraiment davantage que ce qui va se passer. C'est le jour du jugement du Dieu Tout-Puissant. Et bientôt, au milieu du silence terrifiant, les morts apparaissent, les pécheurs, qu'ils soient grands et petits, de toute latitude et de toute race, oui, des pécheurs de la plus vile espèce. Il y a là des meurtriers, des sorciers, des menteurs, des voleurs, des idolâtres, des adultères, des ivrognes, des insulteurs, des extorqueurs, des blasphémateurs. On peut aussi ajouter des profanateurs, des infidèles de toutes sortes, des agnostiques, ceux qui se disent athées, des criminels, on peut vraiment dire petits ou grands, c'est pareil, avec tous ceux qui ont négligé et qui ont délibérément oublié Dieu. Alors il y a des grands champs de bataille du monde où leur poussière est demeurée pendant des centaines d'années et ils viennent des profondeurs de l'océan où des bateaux ont été coulés depuis très longtemps. Ils viennent depuis les cimetières innombrables, oubliés depuis également fort longtemps. On les voit venir tous. Quelle grande compagnie! Et comme ils continuent à venir, des millions et des millions d'entre eux, qui une fois étaient des hommes et des femmes sur la terre, sommés de comparaître devant Dieu, et qu'ils ont, hélas, ignoré, même méprisé, eh bien, ils sont maintenant appelés à rendre des comptes. Ils jettent un coup d'œil furtif ici et là, cherchant un moyen d'échapper. Ils appellent les montagnes, paraît-il, si vous lisez attentivement le Saint-Livre, pour que ces montagnes puissent les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône. Mais il n'y a pas de fuite possible. C'est le jour de leur condamnation. Et voyez-vous, les livres, ils sont ouverts, les livres remplis des annales de leur vie terrestre. Chaque péché se trouve enregistré. Chaque transgression est notée. Bien sûr, vous penserez que ça ne tient pas debout, puisque nous sommes au siècle de la haute performance technique, Internet et tout le reste. Mais rassurez-vous, si Dieu il y a, vous pouvez bien imaginer qu'il a les techniques encore bien plus élaborées que nous pouvons imaginer, puisque nous sommes des êtres humains limités par le temps que nous vivons. Donc, il y aura des actions oubliées depuis fort longtemps, des choses plus ou moins viles, qui sont cachées soigneusement aux yeux des hommes. Toutes, oui, toutes sont maintenant révélées. Elles sont mises en plein jour. Et l'univers entier écoute la terrible révélation. Consternés, ils se tiennent là, pleins de terreur, et ils attendent. Ils attendent. Or, finalement, le livre de vie est apporté. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est pas moi qui le dis. J'aimerais pour cela que vous notiez les indications bibliques que je vais vous donner pour que vous puissiez bien constater que ce n'est pas une idée à moi que je vous raconte comme ça. Alors notez Apocalypse, Révélation, donc Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Ce n'est donc pas maintenant la question ou la profondeur du péché, car tous sont également coupables. Nous sommes tous coupables, moi y compris. Sans la grâce, je serais condamné la même chose. Une seule demande, il y a une seule pensée, est-ce que mon nom est écrit là? Ça sera la seule pensée que nous aurons. Est-ce que mon nom est écrit là, sur les pages du livre de vie? Et en vain, ils cherchent, et en vain, ils fouillent les pages. Bien sûr que ce ne seront pas des pages de papier comme nous le pensons. C'est beaucoup plus élaboré. Je viens de vous dire, ce sera beaucoup plus technique et beaucoup plus avancé que nous pourrons jamais atteindre. Et là, ils verront que leur dernière chance s'est évanouie. Leur dernier espoir s'est éteint. Il y aura des larmes et il y aura des lamentations quand leur dessein, plutôt leur destin, excusez-moi, leur sera révélé. Et puis, nous voyons, il est écrit, celui, Saint Jean qui a écrit cela, il dit, « J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et il continue et il dit, « J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut également ouvert. C'est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Cela, c'est la seconde mort, c'est l'étang de feu. Ce ne sera pas comme nous pensons et comme certains enseignent, vous êtes mort comme le rat, c'est terminé. Pour nous, les humains, c'est pas pareil. Alors quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Tel est donc l'épouvantable et solennelle description du jour du jugement du Dieu Tout-Puissant, pas par la plume de l'homme, pas de l'imagination du cœur humain, mais de la pensée de Yahvé l'Éternel. Alors, mon ami, serez-vous là, je vous le demande? Êtes-vous encore inconverti, non sauvé, et peut-être totalement impassible? Eh bien, si c'est votre cas, ne voulez-vous pas être averti aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Ne savez-vous pas que vous serez jugé? La parole de Dieu est très claire. Elle dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Notez Romains, chapitre 14, verset 12. Donc, personne d'autre ne pourra se présenter à votre place. Vous ne pouvez pas prendre un avocat, aussi brillant soit-il, avec vous. Et vous ne serez pas jugé pour les péchés de quelqu'un d'autre. Vous devrez répondre pour vous-même. Et à moins que vous soyez sauvé auparavant sur la terre, vous serez certainement présent. Bientôt, Jésus-Christ va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il peut-être te condamner? Alors je redemande, es-tu prêt? Il n'y a rien d'aussi sûr que le jugement, car ce jour mémorable a été établi il y a longtemps par le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, les pages de la Bible, elles dépeignent très clairement ce grand et final règlement de compte de toute la race humaine. Et chaque jour nous amène plus près du grand trône blanc où les livres seront ouverts et le caractère de l'homme révélé. Donc, il n'est pas du tout question de sa certitude. Elle est clairement déclarée bien des fois. Prenez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31, où il est écrit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Hébreux chapitre 9, verset 27. Cela est aussi clair et c'est même très fort. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, par conséquent, ne faites pas d'erreur. Le jugement, il est certain. Le jugement, il va venir. Et il ne peut y avoir de fuite pour celui qui est en dehors de Christ. Les hommes peuvent prendre et ils peuvent briser des rendez-vous ici-bas. Mais Dieu a établi ce rendez-vous et il ne permettra pas qu'il soit manqué. Donc vous, mon ami qui écoutez, peut-être encore inconverti, encore pas sauvé. Vous serez là si vous continuez à être impénitent, si vous continuez de refuser l'appel que l'Esprit Saint vous fait maintenant. Dieu fera que vous soyez là, que vous le voulez ou pas. Le but du jugement n'est pas la constatation, mais la manifestation du caractère, pas pour décider si un homme est coupable ou innocent. Cela est déjà connu de Dieu il y a fort longtemps. Son caractère, il est stable, mais c'est pour manifester, pour classifier et donner à l'homme sa juste place, c'est-à-dire la destinée pour laquelle il s'est préparé lui-même et à laquelle il appartient maintenant. La sainte parole de Dieu déclare que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au saint nom du Fils unique de Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 3, verset 18. Il est comme un criminel qui a été jugé et condamné, qui maintenant est assis dans sa cellule sous la sentence en attendant l'exécution finale. Premièrement, ce sera un jugement minutieux. Rien ne peut échapper à l'œil de celui à qui nous avons affaire. Notre Seigneur déclare qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 36. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16. Donc, les pensées, nos pensées les plus secrètes de notre cœur, de notre esprit, seront tous révélées. Pouvez-vous, chers amis, supporter cela? N'y a-t-il pas des choses que vous ne voudriez pas que votre ami le plus intime connaisse maintenant? Mais ce jour-là, non seulement un ami, mais l'univers tout entier entendra et connaîtra les secrets les plus cachés de votre cœur. Et ce sera aussi un jugement juste. Voyez-vous, les gens posent souvent des questions sur la punition éternelle telle qu'elle est enseignée dans la Sainte Bible, et ils la trouvent difficile à réconcilier avec l'amour de Dieu. Car il y en a qui prêchent qu'il n'y a que l'amour de Dieu. Dieu est amour et il pardonnera même des Hitler et de sa sorte. Mais, chers amis, je préfère m'en remettre à la sainte parole inspirée qui déclare qu'il jugera le monde avec justice. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Le jugement de Dieu sera donc un juste jugement, un juste verdict également. Combien différent de beaucoup de jugements des cours humaines. Et encore, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Genèse, chapitre 18, verset 25. Je suis donc disposé à me confier en Dieu, en me confier à la foi, en son merveilleux amour et en sa justice. car je sais qu'il jugera avec justice. Dieu soit donc loué. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de partialité. Le jugement de Dieu est impartial. Position sur la terre, que vous soyez très éduqué, que vous soyez universitaire, de différentes classes, des succès sociaux élevés, très fortunés, des honneurs avec la croix de la Légion d'honneur, de l'éducation extraordinaire, des distinctions mondaines de toutes sortes. Tout cela n'aura là absolument aucune valeur. Tous sont égaux devant Dieu. Il n'y a point de distinction. Romains, chapitre 3, verset 22. Et encore, ce sera un jugement final. Donc, dans ce monde, il est possible de faire appel à une cour supérieure et d'avoir la sentence changée avec des bons avocats. Mais pas là. Le jugement du grand trône blanc, c'est le dernier et le plus haut de tous. Il ne saurait y avoir d'appel. Aucun changement de sentence. Une fois prononcée la sentence, ce n'est plus possible de la changer. Le jugement de Dieu est absolument final. Il est donc éternel. La sentence ne peut jamais être révoquée. Aucune deuxième chance vous sera offerte. Chers amis, voyez-vous, la base du jugement, c'est l'attitude de l'homme envers Christ. Pas la moralité ou la religion, mais il s'agit de la relation personnelle que vous avez avec le Fils de Dieu. Il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, c'est donc merveilleux, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru un seul mot au sujet du Fils unique de Dieu. Saint Jean, chapitre 3, verset 18. Donc, celui qui a le Fils, il ou elle a la vie. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 12. Par conséquent, voyez-vous, une question seulement. Qu'avez-vous fait, je vous le demande, de Jésus-Christ? Eh bien, répondez-vous, j'étais peut-être, c'est ce que vous allez dire, un membre d'église très fidèle. Et j'ai vécu une très bonne vie. J'avais même le crucifix sur ma poitrine, autour d'une chaîne en or. Mais ce n'est pas là la question, chers amis. La question est, avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? C'est là le véritable test. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu sera condamné. C'est pas moi qui le dis. Il y a une dernière pensée et avec elle je termine pour l'instant seulement. Le juge ne sera personne d'autre que Jésus-Christ. Écoutez encore la sainte parole une fois de plus. Il est dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. Saint Jean, chapitre 5, verset 26. C'est donc Jésus-Christ qui a été établi par Dieu le Père comme juge des vivants et des morts. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Un criminel allait être écrasé par une automobile quand un homme s'est précipité et a pu le sauver au dernier moment où il aurait été écrasé. Or, plus tard, cet homme s'est tenu à la place du criminel, étant accusé d'un grand crime. Or, le juge, c'était justement l'homme qui l'avait sauvé de ce terrible accident. Le criminel a imploré le juge et il s'attendait à ce qu'il fasse de nouveau pour lui ce qu'il avait fait auparavant quand il l'a sauvé même au péril de sa vie. Mais ce jour-là, et c'est ce que a essayé d'expliquer le juge, ce jour-là, quand je vous ai sauvé in extremis, j'étais votre sauveur. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Je suis votre juge. Et il fut condamné. Donc, un jour, que Dieu fasse que ce soit aujourd'hui, vous le reconnaîtrez comme le Seigneur des Seigneurs et comme étant le Roi des Rois. Il faut donc qu'au saint nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Notez Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. C'est donc à vous, chers amis, de choisir. Sera-ce maintenant ou plus tard? Maintenant, par votre libre volonté. Ou alors, est-ce que ce sera peut-être par la force? Voulez-vous l'avoir maintenant comme votre sauveur? Ou voulez-vous avoir Jésus-Christ plus tard comme votre juge? Voyez-vous, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Lequel est-ce que ce sera? Or, si vous pouviez décider, si au moins je pouvais vous persuader, voyez-vous, c'est maintenant le temps, car alors ce sera trop tard. C'est donc maintenant le jour du salut. Car plus tard, ce sera quoi? Ce sera le jour du jugement. Maintenant, il y a de l'espoir. Plus tard, ce sera le désespoir. Alors venez, venez maintenant. Aujourd'hui, ces jours de grâce ne comptent pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis donc sa puissante main. Chers amis, comment un homme qui est sceptique peut-il être convaincu de l'existence d'une vie future? Eh bien, je vous prie de noter, si vous le voulez bien, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Là, il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Alors, mon cher ami, ma chère amie, nous allons plaider et nous allons raisonner ensemble. À vrai dire, Dieu vous a jeté le défi de discuter avec lui. Comment un honnête sceptique peut-il, par exemple, être convaincu de l'existence d'une vie future? Alors laissez-moi vous le dire et permettez-moi de dialoguer avec vous un instant. Premièrement, la possibilité de l'existence d'une vie future devrait nous conduire à entreprendre une investigation des plus sérieuses. Vous devez commencer ici. Vous devez admettre, pour débuter, que la possibilité d'une vie future, que cette vie existe. En d'autres termes, il se pourrait qu'il y ait véritablement une vie future. Et s'il en est ainsi, vous devriez être d'accord d'entreprendre une investigation des plus soigneuses. Êtes-vous d'accord avec moi? Admettez-vous simplement la possibilité d'une vie qui pourrait être future? Si oui, alors laissez Dieu simplement discuter avec vous et avant longtemps, vous serez sûr. Deuxièmement, personne n'a jamais pu prouver qu'il n'y a pas de vie future. L'homme est sur cette terre depuis au moins 7000 ans. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucune personne n'a été capable de prouver qu'il n'y a pas de vie future. L'homme de science, qu'il soit athée, philosophe, ils ont tous essayé de le prouver et ils ont pourtant échoué. Pas un n'a amené de preuves positives. Par conséquent, je dis que le fait qu'il n'y a pas de vie future n'a jamais été prouvé. Et cela, vous devez tout de même l'admettre. Troisièmement, Dieu nous invite à en raisonner. Ce n'est pas défendu. Maintenant, je viens donc à mon texte. Ce texte dit « Venez et plaidons, dit Yahvé l'Éternel. » Êtes-vous disposé à laisser Dieu plaider avec vous, tout simplement? Si vous l'êtes, vous serez bientôt convaincu. De cela, j'en suis même sûr. Si donc vous êtes disposé à laisser Dieu plaider avec vous, nous continuerons point par point, pas après pas, jusqu'à ce que finalement vous admettiez non seulement la possibilité d'une vie future, mais jusqu'à ce que vous soyez convaincu qu'il y en a bel et bien une. Quatrièmement, la plupart des sceptiques raisonnent contre une vie future, et cela afin de s'éloigner mieux et plus loin de Dieu. Et très peu raisonnent pour elle, afin d'arriver à Dieu. Ils font le contraire. Et certainement j'ai raison. N'est-il pas vrai que la plupart des sceptiques que vous avez connus se sont mis à raisonner contre une vie future et ils l'ont fait afin de s'éloigner davantage de Dieu? Combien, je me le demande, ont soutenu un raisonnement afin de découvrir les faits et combien ont accepté avec joie les faits lorsqu'ils les ont trouvés. Qu'en est-il de vous? Pourquoi avez-vous lu tellement de livres qui sont écrits par des sceptiques et des athées? Vous n'avez jamais dit que vous êtes fatigué de les lire. Il n'y a qu'une réponse. Vous voulez des arguments contre Dieu autant que possible, contre une vie future. Et si vous désirez des arguments en faveur de Dieu et d'une vie qui soit future, eh bien, essayez de lire le saint livre, la Bible. Vous ne liriez pas les livres des sceptiques, voyez-vous? Car si vous êtes honnête, vous discuterez avec un sincère désir d'être convaincu d'une vie future et ainsi d'entrer en contact avec Dieu. Maintenant, Dieu a son propre plan pour ce qui concerne notre découverte de la vie future. Le malheur, c'est que la plupart d'entre nous désirons suivre nos propres plans. Nous voulons savoir tout beaucoup mieux. Nous avons notre façon de raisonner. Et c'est pourquoi nous n'avons encore jamais réussi. Nous ne voulons pas discuter à la manière de Dieu. Dieu a sa propre méthode. Il désire que vous raisonniez à sa manière. Donc, si vous êtes honnête, vous le ferez. Admettons donc que vous vous arrêtiez maintenant même, et que vous vous demandiez si vous êtes honnête. Êtes-vous d'accord de raisonner maintenant à la manière de Dieu? Essayons ensemble. Cinquièmement, Dieu a promis de se révéler à tous ceux qui sont honnêtes et sincères. Vous me chercherez, est-il dit, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Dieu vous dit donc très clairement dans ce verset, qui est pris de la Bible, le Saint-Livre, que vous pouvez le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Dites-moi maintenant, chers amis, avez-vous jamais fait cela? Ou est-ce que toute votre recherche a été faite uniquement pour vous éloigner encore davantage de Dieu? Avez-vous jamais cherché afin d'arriver plus près de Dieu? Et avez-vous cherché de tout votre cœur? Voulez-vous maintenant y mettre tout votre cœur afin de ne pas être déçu? Dieu dit que vous pouvez le trouver si vous le voulez. Vous voyez, si vous êtes contre la vérité dès le début, alors vous n'êtes pas honnête et vous ne pouvez espérer arriver ainsi à Dieu, puisque d'avance vous vous y refusez. Vous ne pouvez vous attendre à connaître la vie future. Si au début déjà vous essayez de trouver des arguments pour prouver qu'il n'y a pas de vie future et pour nier l'existence de Dieu, vous n'êtes pas très honnête. Vous devez le chercher de tout votre cœur et être réellement désireux de le trouver. Vous souvenez-vous de la reine de Séba? C'est une histoire authentique. Au jour de Salomon, cette reine était connue. Elle a fait du reste un très long voyage pour entreprendre une investigation honnête et soigneuse. Et vous pouvez voir la déclaration qui a été faite à son sujet. La reine du Midi se lèvera, est-il dit, au jour du jugement. Et elle se lèvera avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici beaucoup plus que Salomon. Notez soigneusement Saint Matthieu, chapitre 12, verset 42. Donc le jour pourra venir, à vrai dire, le jour viendra, que vous le voulez ou pas, où Dieu vous condamnera. Vous devriez donc au moins faire ce que la reine de Séba a fait. Vous devriez être assez désireux et humble et sincère pour chercher. Descendez un peu de votre piédestal, de votre orgueil. La reine de Séba, c'était pas n'importe qui. Elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle n'a pas été déçue. Et Jésus-Christ nous dit, ce verset, il est encore plus grand que Salomon. Sûrement que vous devriez aller aussi loin pour vous informer sur Jésus-Christ. Sixièmement, quelle est maintenant la méthode de Dieu ? Vous trouverez la méthode de Dieu établie dans Saint Jean, chapitre 7, verset 17, où il est dit « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu le Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » C'est ce que dit Jésus-Christ. Donc la question, elle est bien de savoir si vous désirez faire la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à faire sa volonté, alors vous pouvez tout aussi bien vous arrêter dans votre recherche. Mais si vous êtes honnête, alors vous tiendrez à faire sa volonté dès que vous la connaîtrez. Et Dieu dit que si vous y êtes disposé, vous saurez alors si la doctrine de la vie future ou toute autre doctrine est vraiment de Dieu. Vous saurez si Jésus-Christ parle comme un homme ou s'il parle comme étant le Fils de Dieu. C'est donc la seule et unique condition. Et je crains, chers amis, que le sceptique moyen ne soit pas du tout désireux de faire la volonté de Dieu. Il ne se tient pas à ça, à se détourner, surtout pas à se détourner de sa façon de vivre, de ses péchés. Il ne veut surtout pas vivre pour Dieu. Il ne veut même jamais essayer de croire. Il ne veut pas être convaincu, tout simplement. Aucun sceptique qui était disposé à faire la volonté de Dieu n'a jamais été déçu. Dieu se révélera à vous si vous êtes disposé à faire sa volonté. Mais l'êtes-vous vraiment? Vous n'arriverez à rien à moins de prendre le chemin de Dieu. Mais si vous le voulez, vous ne serez pas jamais désappointé. Donc maintenant, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Autrement dit, quel est son commandement? Alors à ce sujet, nous ne sommes pas laissés dans l'incertitude, car il est dit très clairement dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3, verset 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est donc là la volonté de Dieu. Il vous commande de croire au saint nom de son Fils Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord maintenant d'essayer au moins de croire? Oh, je sais ce que vous dites. Vous dites que vous ne pouvez pas croire. Ça vous semble tout simplement impossible. Eh bien, mon ami, cela n'est pas tout à fait vrai. Voyez-vous, la difficulté n'est pas dans votre tête. Elle est dans votre cœur et votre esprit. Elle est dans votre volonté de vouloir. Mais vous ne voulez pas. Donc la question est, êtes-vous désireux ou pas d'essayer de croire? Si Dieu vous révèle Jésus-Christ, voulez-vous croire en lui? Voulez-vous venir avec cette attitude? Si vous vous opposez à lui, alors il ne peut rien faire pour vous. Si vous ne voulez pas croire, il ne peut pas vous aider, c'est clair. Vous devez être prêt à faire sa volonté. Il faut que vous soyez disposé tout simplement à croire. Et maintenant, dites-moi, y êtes-vous disposé? Essayez. Pouvez-vous honnêtement dire que vous désirez faire la volonté de Dieu? Si vous le pouvez, alors la bataille, elle est déjà gagnée. Il vous commande de croire à son Fils bien-aimé. Il vous rendra capable de croire si vous le voulez bien. Pouvez-vous dire, par exemple, comme le centurion des temps passés, il a dit « Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité ». Il était honnête, il était incrédule et il a demandé au Seigneur « Viens-moi en aide ». Vous pouvez aussi noter « Osée », « Osée », « O-S » et 2-1, « Osée », chapitre 6, verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Donc, n'abandonnez pas, continuez, persévérez. Il est donc dit « continuez et persévérez ». Les résultats, elles sont absolument certaines. Dieu dit que si vous continuez, eh bien vous le connaîtrez personnellement. Vous serez convaincu en plus. Mais il faudra que vous puissiez le désirer. C'est la moindre des choses. Maintenant, quelle était la méthode de Saint Jean? Eh bien, la voici. Il a dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son saint nom. » Saint Jean, chapitre 20, verset 31. Alors, mes chers amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire ce qui a été écrit. En d'autres termes, lisez simplement l'évangile de Saint Jean. Je n'ai jamais connu personne, sceptique ou non, qui ayant sincèrement, sérieusement et honnêtement lu l'évangile de Saint Jean d'un bout à l'autre et qui n'ait pas été convaincu. Je dois vous dire, et j'en ai honte, j'ai dû lire 3 fois l'évangile de Jean, tellement que j'étais stupide et bouché, pour enfin comprendre que j'étais perdu et que j'avais besoin d'accepter la main tendue de Jésus-Christ pour comprendre que j'avais besoin d'être sauvé, car j'étais perdu. L'évangile de Jean, c'est l'évangile du Fils de Dieu. C'est l'évangile de la foi. C'est l'évangile qui prouve au-delà de tout doute qu'il y a vraiment une vie future et que Jésus-Christ est venu de Dieu, qu'il est retourné à Dieu son Père, et qu'il a donné sa vie à la croix du calvaire, et cela pour devenir le sauveur de toute l'humanité, pour tous ceux qui veulent bien l'accepter et qui vous dit comment être sauvé. Il rend donc très clair le fait que Dieu ne veut pas que vous périssiez, pas du tout. Il voudrait tellement que vous puissiez être sauvé. Il vous offre la vie éternelle par son Fils bien-aimé et que tout ce que vous avez à faire est de vous confier en Jésus-Christ, le recevoir comme votre sauveur personnel. Saint Jean dit que tout son but en écrivant cet évangile, c'était que les hommes puissent croire que Jésus-Christ est en vérité le Christ, est en vérité le Fils de Dieu, et que en croyant, ils aient la vie par son Saint-Nom. Et c'est exactement ce qui arrive. Quand vous croyez en Jésus-Christ, quand vous le recevez comme votre Sauveur, vous avez la vie, vous avez la vie éternelle. Vous ne la trouverez ni en Bouddha, ni en Mohammed, ni en qui que ce soit d'autre, ni par une éminence aussi haut placée soit-elle, ni même par le pape. Et maintenant donc, mon cher ami, permettez-moi de vous encourager à relire, si vous ne l'avez jamais fait, l'évangile de Saint Jean. Il n'y a pas de honte à le relire. J'ai dit que j'ai dû le lire 3 fois. Évidemment, il faut aussi dire que vous tous avez fait probablement 2 à 3 fois plus d'école que moi, puisque j'ai fait que 4 ans d'école primaire, étant malheureusement né dans un conflit bizarre d'un père millionnaire qui s'est marié 5 fois, et j'ai dû fuir à l'âge de 13 ans pour ne pas être tué. Alors évidemment, j'ai pu faire que 4 ans d'école primaire. Mais je suis devenu un autodidacte avec beaucoup de ténacité et avec beaucoup de volonté. Il en fallait. Alors maintenant, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'autres livres dans le monde entier aussi clair que l'évangile de Saint Jean. C'est le plus grand livre qui ait jamais été écrit. Asseyez-vous donc tranquillement et essayez de le lire d'un bout à l'autre. Comme vous avez fait beaucoup plus d'études que moi, vous n'aurez pas besoin d'avoir honte et de dire plus tard, comme je dois le dire pour ne pas mentir, que j'ai dû le lire 3 fois. Alors, lisez-le seulement une seule fois et ça vous suffira. Et si vous acceptez Christ comme votre Sauveur, vous aurez la vie éternelle. Vous serez donc sauvés, sauvés pour le temps et pour l'éternité. Et nous arrivons à 7e moment. Êtes-vous d'accord maintenant, chers amis, de venir à la manière de Dieu? Savez-vous que parmi les 30 plus grands sceptiques, c'est pas moi qui le dis, ça a été écrit dans le Reader Digest, eh bien, ces 30 plus grands sceptiques ont écrit tout d'abord contre Dieu et contre la Bible, pendant qu'ils étaient encore plus ou moins jeunes. Mais ils ont changé en devenant plus âgés, peut-être en réalisant que ça peut s'arrêter à tout moment. Et donc sur les 30 plus grands sceptiques, 28 ont finalement accepté Christ dans leur vie. Je vous demande, comment pouvez-vous expliquer cela ? Voyez-vous, quand vous étiez jeune, vous avez probablement ri et vous êtes probablement moqué des choses divines. Vous avez certainement ridiculisé l'idée d'une vie future. Mais maintenant que vous êtes plus âgé, vous réalisez que vous êtes plus près de la fin. Moi, avec mes 85 ans, je ne sais jamais si c'est le dernier message, la dernière étude que je parle sur un de ces CD. Ça peut s'arrêter n'importe quand à 85 ans. On devient très réaliste. Or, un jour, ce sera aussi pour vous terminé. Peut-être vous demandez-vous si cette vie elle finit un jour. Ou s'il y a, après tout, va savoir, une vie future. Vous êtes tout de même un peu tourmenté. Vous êtes, si vous êtes sérieux, un peu soucieux. Et vous aimeriez savoir. Alors, mes très chers amis, si 28 des plus grands sceptiques ont été convaincus d'une vie future dans l'âge mûr, et s'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, et si deux seulement ne l'ont pas fait, alors si j'étais vous, je suivrais l'exemple des 28 plutôt que de suivre l'exemple des deux qui sont restés sceptiques. Moi, j'accepterai Christ pour être sauvé. Donc la difficulté n'est pas dans votre tête, mais elle se trouve plutôt dans votre volonté. Jésus-Christ a dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Saint Jean chapitre 5, verset 40. « Ce n'est pas que vous ne puissiez pas, mais vous ne voulez pas. Vous pouvez, si vous le voulez. Vous me dites que vous ne pouvez croire, que c'est impossible. Ça, c'est pas vrai, puisque vous avez la volonté de vouloir ne pas croire. Dieu dit que vous ne voulez pas croire. Oh, très chers amis, laissez-moi tout de même vous supplier encore une fois d'ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie sur la croix du calvaire pour vous, et de le recevoir comme votre sauveur personnel. Et il enlèvera ces fameuses toiles d'araignée qui obstruent votre esprit. Il vous rendra capable de croire. Si vous voulez venir selon la méthode de Dieu, vous serez sauvés. Vous saurez qu'il y a une vie future. Et si Jésus-Christ devient votre sauveur, eh bien vous passerez l'éternité au ciel, où vous jouirez de la vie future à jamais. Voulez-vous le faire? Faites-le. Oui, je vous en supplie, faites-le plutôt maintenant. Nous allons terminer ensemble par une simple prière. Vous pouvez prier cette prière dans votre cœur, simplement, ou si vous voulez la répéter à haute voix, comme vous voulez. Je tâcherai de formuler les mots lentement pour que vous puissiez bien les suivre. Mais encore une fois, cette prière, c'est pour vous aider à vous guider, mais vous, personnellement, à n'importe quel moment, en quelques mots seulement, vous pouvez dire au Seigneur, « Jésus-Christ, je t'accepte. » Ce sera totalement suffisant. Alors, chers amis, je suis sûr que nous avons ici des personnes de différentes églises. Je ne suis pas venu ici pour diviser les églises, mais pas du tout, bien au contraire. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, ni de prendre un prétexte de vous faire écrire votre nom et adresse sur un bulletin tout préparé à l'avance. Non, 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 rien de tout cela, vous pouvez en être totalement rassuré. Nous allons donc prier tout d'abord pour le salut des âmes, car cela concerne également les rétrogrades, ceux qui un jour ont accepté Christ, mais qui sont retournés dans leurs anciennes habitudes et qui de ce fait se sont totalement détournés du Sauveur. Prions donc simplement. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Sauveur. tu es mon sauveur. Je t'ouvre mon cœur, je te demande de pardonner tous mes péchés. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon maître et mon sauveur. Pardonne tous mes péchés. Mets ton esprit d'amour en moi. Fais de moi un enfant de Dieu, un véritable chrétien avec l'Esprit de Christ dans mon cœur. Seigneur, je sais que nul crime ne peut être puni ou payé deux fois, puisque toi, Jésus-Christ, tu as subi le châtiment entier pour chaque péché que j'ai commis. Donc, ma dette a été payée et elle n'existe plus. Rien ne peut plus me séparer de toi, car aujourd'hui, tu m'as admis dans ta famille royale. Merci, Seigneur, pour le don de ton salut que tu m'as offert à cet instant même. Amen. Amen. Et chers amis, je vous mets un ou deux chants qui sont du passé. Il y a environ 50 ans, quand j'avais créé, quand j'avais fondé une mission sur cassette. Mais ces cassettes sont vieilles et usées. Peut-être quand même l'essentiel sera de comprendre les paroles. Je vous laisse donc et à demain pour la suite de ces études. Au revoir mes très chers amis. Au revoir.
821, le roi Louis le Pieux, fils de Charlemagne, se trouvait à Angers pour une procession. C'était pour le dimanche des rameaux. Comme dans toute procession, il y a toujours un moment où tout s'arrête. Le roi se trouvait près de la tour d'une prison, lorsque tout à coup il entendit quelqu'un chanter depuis cette prison. « Toute gloire, puissance, honneur sont à toi, ô roi !» Le fils de Charlemagne fit quelques recherches, aux seules fins de savoir pourquoi un homme chantant si bien et d'aussi belles paroles était en prison. On vint dire à l'empereur que cet homme, Théodore d'Orléans, était en prison car on le soupçonnait de conspiration contre la couronne impériale. Le roi Louis le Pieux, qui était un homme bon et compatissant, fut ému. Et à l'heure même, il le délivra, le pardonna, le renvoya chez lui, libre sans crainte au sujet de la chose dont on l'accusait. Cet homme, Théodore d'Orléans, était évêque et vivait près de Dieu. Étant poète, il a composé paroles et musique de ce chant qui lui a donné le chemin de la liberté. Chant destiné à montrer la grandeur de Dieu, sa puissance et sa fidélité. Ce chant, bien sûr, a été adapté avec un langage plus moderne que fut l'original.
Partage. frapper quand son amour je meurs pour régner avec lui.
Certaines personnes prennent du temps pour écrire leurs cantiques, mais à certains moments, l'inspiration est subite. En quelques instants, un cantique merveilleux peut jaillir de leur bouche. David, dans un de ses psaumes, décrit la source de la musique dans la vie chrétienne. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Elton Menorot était musicien dans une église, et après des études musicales, il devint professeur et directeur d'une chorale devenue célèbre aux États-Unis. Alors qu'il se trouvait au Texas, en 1938, pour une série d'évangélisations, par un bel après-midi, il partit faire une petite marche dans la campagne. En revenant, la chaleur était telle qu'il décida d'entrer dans une église pour goûter un peu de fraîcheur. C'est alors qu'en pleine église, entouré de bancs vides, dans une solitude parfaite, il put sentir la présence de Dieu. Et il se mit à fredonner « Dans mon cœur chante une mélodie ». Tout de suite, il partit dans le bureau du pasteur pour trouver du papier et un crayon. Il dessina les lignes musicales et là, pendant une heure, il écrivit ce chant « Paroles et musique ». Le soir, il put apprendre ce chant aux jeunes gens, puis à l'assemblée. Il lui semblait que tout son être en était imprégné. J'espère que dans votre cœur aussi chante une mélodie. Écoutez maintenant le chant qui suit.
Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, à la gloire du sauveur. Douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie à la gloire du Sauveur. Jésus, Jésus.